face à la menace terroriste.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive à votre avis sur VOA Afrique. Nathalie Barge avec vous dans cette discussion. Nous revenons aujourd'hui sur l'état de siège qui a été prorogé contre les groupes armés en Ituri et au nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. La question que l'on se pose encore, c'est est-ce que c'est une mesure efficace selon vous? Est-ce que cela pourrait être un modèle pour contrer les groupes djihadistes, notamment en Afrique? Et la question principale, peut-être, ce serait, les armées nationales peuvent-elles, à elles seules, selon vous, repousser toutes ces menaces? Nous avons déjà en ligne Luther Martin qui est au Congo, Brazzaville. Comment allez-vous?
Bonsoir.
Alors, on vous écoute pour votre réflexion sur cette question, la question de l'Est de la RDC avec tous ces groupes armés, ces nombreux groupes armés et la question donc de l'état de siège, savoir si cela permet de lutter contre cette menace. On vous écoute.
Oui, madame, c'est toujours la crise. C'est toujours la crise. Aujourd'hui, oui. Si aujourd'hui l'Afrique se face à ce genre de choses, c'est parce que l'ONU existe. Bon, moi aussi, je ne comprends pas. Les djihadistes, mais surtout les djihadistes, mais là, on parle surtout chez nous ici, les pays africains. Mais comment les pays ont les sécurités? Les individus comme ça, c'est des pagaïs, mais...
Oui, donc vous blâmez en quelque sorte la force onusienne, Luther Martin. Merci beaucoup pour votre participation. On a Jean Sokola qui est également en République démocratique du Congo. Jean qui pense que le bilan à mi-parcours de l'état de siège est très favorable. Est-ce que on parle en même temps là? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'on a Jean en ligne ou pas?
Oui, je suis là, je suis bien là.
Formidable, formidable. Alors Jean, je disais que vous pensez que le bilan de l'état de siège jusqu'ici est très favorable. Donc on vous écoute, on écoute votre argument. Jean, à vous la parole.
Oui, dans l'entrée de jeu, comme je l'ai très bien mentionné dans mon intervention, vraiment le bilan par rapport à cet état d'urgence est très positif. Parce qu'il s'est fait que pendant plus de 3 décennies maintenant, à l'est du pays, il y avait manque de l'autorité de l'État. Il a fallu faire pour certains territoires plus de 100 kilomètres sans trouver un policier, moins encore un militaire. C'est ce qui était à la base de cette insécurité manifeste. Mais étant donné que l'administration militaire est là, parce que quand nous parlons de l'administration militaire, il faut aussi ajouter à cela l'effectif. Il s'est posé un problème de l'effectif. Et maintenant, là, comme l'effectif est triplé dans ces zones-là, il y a une présence remarquable de militaires, ce qui fait que les commandements aient été d'office changés. Parce que le militaire recevait les injonctions de fois du gouverneur, qui est civil, qui n'est pas peut-être spécialiste à la matière, mais étant donné que le militaire qui sont au fond reçoit directement les injonctions du gouverneur qui est militaire avec des objectifs très spéciaux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les groupes armés n'ont pas tellement de champ d'action, mais ils sont en train de poser certains actes isolés pour décourager l'opération de l'état de siège, madame. Mais d'une manière générale, l'état de siège est vraiment en train de prouver la suffisance qu'il fallait l'instaurer depuis les années pour éradiquer le phénomène groupes armés à l'est de la RDC.
Un grand merci Jean Sokola pour votre réflexion sur cette question. On vous dit à très bientôt. On a Jonathan Chiswaka qui est également en République démocratique du Congo et qui pense également, dit-il hein, sur notre Facebook, que l'état de siège est une décision salvatrice, hein, selon ses termes, en laquelle nous croyons, dit-il, dans la mise en application. Je pense, dit-il, que les États africains devraient coaliser pour éradiquer le terrorisme. Jonathan, bonsoir, on vous écoute pour en savoir plus sur votre point de vue. À vous la parole.
Oui, merci pour la parole, vite et de ceux aussi congolais. Je les rappelle des pères et des mères. Hein. L'état de siège est une décision salvatrice prise par l'autorité de l'État, le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais dans son applicabilité, comme j'ai dit, il faut que les armées africaines puissent coaliser pour éradiquer le terrorisme. Vous voyez une action conjointe entre la RDC, le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie et l'Ouganda, tous ces blocs de l'Est de la RDC, pour combattre ce terrorisme. Ça va avoir un grand effet parce que ces terroristes, lorsqu'ils sont traqués en RDC, et ils trouvent une base arrière dans les pays voisins qui sont proches de la RDC. Et si ces pays voisins coalisent pour craquer ces rebelles, je crois qu'ils n'auront aucun endroit où ils pourront aller s'abriter. Vraiment, l'importance que les nations africaines puissent coaliser est tellement grande. Et pour notre état de siège, il faut que l'armée puisse coopérer avec les intelligences, c'est-à-dire l'armée coopérer avec ceux-là qui ont un génie en RDC pour produire des matériels qui vont permettre à l'armée de bien contrôler la zone. Par exemple, les drones. Notre armée, qui n'a pas assez de drones pour contrôler les territoires, va avoir toujours un déficit lorsqu'il gagne du terrain et qu'il doit poursuivre l'adversaire. Les contrôles ne se font pas à temps réel. Il y aura les ADF qui vont faire des incursions spontanées à un certain endroit. Alors, s'il y avait un contrôle de drones, ces incursions vont diminuer parce que les drones vont alerter à temps réel et plus rapidement la présence dangereuse des terroristes dans certains endroits où ils opèrent. Vraiment, que l'armée, que les ministères, le gouvernement, les ministères de la Défense puissent s'ouvrir pour que tout Congolais, tout celui qui a une intelligence, pour créer quelque chose, une arme, ou créer un dispositif pour assurer la sécurité, puisse contribuer, puisse participer à cette action de l'armée à travers l'état de siège.
Un grand merci Jonathan. Jonathan qui a rappelé en effet, hein, réflexion très pertinente, hein, que dans la lutte contre les groupes armés, on a besoin de matériel militaire, notamment de drones. À très bientôt Jonathan. Avant de prendre Marie-Rodrigue Amoury qui est également en République démocratique du Congo, je vais citer Kazéré Camilonde qui a écrit sur le Facebook de VO Afrique, je le cite, jusqu'à présent l'état de siège n'a rien produit, pense-t-il. Les ADF continuent de massacrer les civils au Nord Kivu et en Ituri. L'armée doit extirper en son sein les infiltrés et les officiers affairistes qui collaborent avec les rebelles. Donc ça, c'est le point de vue d'un de nos auditeurs. L'on sait effectivement que le 9 juin dernier, 9 civils ont été tués dans l'est de la RDC, hein, dans une nouvelle attaque ADF. Un infirmier a même affirmé que 13 autres corps auraient été découverts. On a aussi une attaque le 7 juin, 10 civils, hein, qui ont été tués. Il y a un hôpital incendié à Boga en Ituri. Et le 31 mai, une cinquantaine de civils ont été donc assassinés dans l'attaque de deux villages, hein, Boga et Tchabi. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'effectivement, la violence armée continue. On a donc Marie-Rodrigue Amoury en République démocratique du Congo. Comment allez-vous ?
Je vais bien. Bonsoir, Nathalie Barge. Bonsoir, VO Afrique.
Alors, vous dites sur notre Facebook que la société civile a chiffré 157 attaques depuis l'instauration de l'état de siège. Alors, en fait, je pense que vous faites référence au fait que la société civile de l'Itouri, très exactement, a dénombré 157 morts pendant l'état de siège. Et vous dites que du côté des militaires, l'armée se félicite d'avoir récupéré plus de 20 sanctuaires des militaires. Et vous soulignez, vous dites qui dit mieux. Donc Marie-Rodrigue Amoury, on vous écoute pour étoffer votre raisonnement par rapport à cette question sécuritaire.
Merci beaucoup Nathalie Barge. Bon, merci beaucoup VO Afrique de nous avoir d'abord donné la confiance et de nous écouter à travers le monde et les pays tout entiers. J'ai parlé concernant l'état de siège instauré par le président de la République, je cite Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il a instauré l'état de siège pour mieux traquer les rebelles qui envahissent le pays et surtout du côté est. Et récemment et dernièrement, les militaires se sont félicités d'avoir récupéré, tel que je l'ai écrit sur Facebook, 20 sanctuaires. Or, la société civile aussi a chiffré 157 morts depuis l'état de siège. Alors, nous avons tous félicité lorsque le président a instauré l'état de siège. Mais on ne voit plus de changement jusqu'à présent. Les gens meurent chaque jour. Il y a eu attaque récemment des hôpitaux, alors même les attaques des hôpitaux, nous avons regretté. Alors la guerre de l'Est est politisée, on peut dire dans ce sens pareil. Nous voulons en ce que le président puisse bien s'asseoir. Il a demandé récemment du côté de la Kenya de l'aide. Jusqu'à présent, on ne voit pas les militaires de la Kenya pour seconder nos confrères de l'Est, les militaires des FARDC.
Un grand merci, Marie-Rodrigue Amoury, qui est en République démocratique du Congo, plus précisément à Kolwezi. C'était un plaisir de vous entendre. Comme tous nos auditeurs, on a Jean-Baptiste Onga, également en République démocratique du Congo. Oui. Comment allez-vous ce soir ?
Bonsoir, madame.
Alors, on vous écoute hein, sur cette question donc de la question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous pensez que seule votre armée ne peut pas faire face à tous ces groupes armés ? Jean-Baptiste, on vous écoute, à vous la parole.
Oui, vous avez posé la question de savoir si les Africains seuls peuvent faire face aux groupes armés. Moi, non. Seuls, par rapport à nos moyens, on ne peut pas faire face. Il faudra l'assistance des pays étrangers qui ont des moyens, tant humains et matériels, logistiques, qui peuvent aussi nous aider à éradiquer ces terroristes.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Onga. Pour en rajouter un petit peu hein, sur, vous avez parlé donc et vous dites que l'aide de la communauté internationale pourrait aider donc le pays à éradiquer donc ces terroristes. Vous avez le même point de vue que Jonathan qui a parlé il y a quelque temps par rapport à la logistique, les moyens matériels, etc. C'est cela, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. L'aide de la communauté internationale peut aider les pays africains à faire face aux groupes terroristes. Hein, parce qu'ils sont par rapport à leur professionnalisme.
Un grand merci, Jean-Baptiste. C'était vraiment un plaisir de vous entendre. Avant de prendre Thierno Oumar Diallo, qui est en Guinée, je vais citer Faustin Takimantero, qui pense que l'état de siège est une alternative efficace pour contrer l'activisme des groupes armés dans l'est de la RDC, dit-il. Et l'élément important est la politique de non-originaire pour épargner les nouvelles autorités militaires des revendications tribales. Alors, je ne sais pas s'il fait allusion au fait que, je ne sais pas si cela est encore en vigueur, le fait de ne pas donc mobiliser des militaires de la région, d'aller les mobiliser, les envoyer donc dans d'autres régions. On a aussi le commentaire de Bruno Bayobama qui a simplement écrit trois mots. J'aime la paix, dit-il. Merci beaucoup Bruno. Olenga Sopi pense que le changement sera difficile malgré l'état de siège, dit-il, décrété par le président Félix Félix Tshisekedi. Il y a toutefois de l'espoir, pense-t-il, mais il pense que c'est de la distraction. Il est donc sceptique sur une éventuelle suite favorable dans ces deux provinces en particulier. Mais il dit, voyons voir la suite. En effet, on a en ligne donc Thiernou Oumar Diallo qui est en Guinée. Comment allez-vous ?
Je vais bien et vous ?
Ça va très bien. Alors vous, Thiernou, vous pensez que la lutte contre les rébellions, alors vous dites la lutte contre les rébellions est plus facile que contre les terroristes car les rebelles ont la foi et des objectifs contrairement aux terroristes. Alors je ne sais pas si vous n'avez pas inversé votre propos, mais vous allez nous en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne.
Oui, tout à fait. Je voulais dire exactement que parce que dans votre question, vous avez souligné est-ce que les États d'urgence, comme l'initiative qui a été faite par le président Tshisekedi, qui n'était pas quelque chose aussi possible pour mettre fin aux terroristes, pour combattre les terroristes. Je pense que le problème de l'Est, c'est un peu amélioré le problème de l'insécurité selon ceux qui vivent à l'Est. Mais je pense que l'état d'urgence a été vraiment quelque chose qui a beaucoup apporté parce que ça motive encore les troupes qui sont sur le terrain parce que c'est eux qui gèrent. Donc les civils, l'administration est gérée par les militaires. Je pense que c'est un peu motivant de leur part. Mais en parlant du terrorisme, si on peut faire la même chose face au terrorisme, je pense que non, c'est pas quelque chose qui est facile quand il s'agit du terrorisme. Le combat contre le terrorisme n'est pas quelque chose qui est facile. Parce que la différence entre les rebelles et les terroristes, c'est que les rébellions ont moins l'objectif visé. La plupart des rébellions, ils visent le pouvoir central, renverser et gérer. C'est la majorité des rebelles disent cela. Mais le terrorisme, n'a pas de foi religieuse, contrairement aux rebelles. On a vu des chefs religieux qui étaient dans des rébellions, qui ont fait tout bien. Le terrorisme, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont là à endeuiller des milliers de familles. Et même, vous pouvez voir des terroristes qui n'ont pas, qui eux-mêmes ne savent pas l'objectif principal de leur combat. Voilà le problème, parce qu'on ne peut pas s'attaquer aux différents lieux de culte, les églises, les mosquées. On vient, on rase, on incendie des villages entiers. Et puis, il n'y a pas aussi des offensives. Les autres, les rebelles, par contre, font des offensives vers le capital. Mais les rebelles, les terroristes, servent de jeunes, donc habités par des pauvres citoyens pour s'installer et pour aller faire des attentats, des suicides. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer ou accepter, car ça n'a rien à voir avec la religion dont je suis revendique, parce que la majorité de ceux qui mènent ce combat, c'est des gens qui ne respectent pas les principes religieux, parce que la majorité c'est drogue, la majorité tue des innocents, ils s'attaquent aux biens publics et privés, donc la violence n'est pas l'islam, tout le monde le sait. L'islam,
merci
c'est la
beaucoup.
Paix. Donc, ça, tu ne peux pas être revendiqué d'être un combattant d'une religion. Les religions, c'est la paix. Mais tu ne peux pas revendiquer d'être un véritable combattant.
Merci beaucoup, Thiernou Oumar Diallo.
Au sein de la population civile.
Un grand merci, Thiernou Oumar Diallo, à partir de la Guinée, pour parler un petit peu des progrès, notamment de l'armée, donc dans l'Est de la RDC. On a parlé tout à l'heure de la société civile en Ituri qui a toutefois mis au crédit de l'état de siège une accalmie dans le territoire de Djougou. Donc ça c'est une excellente nouvelle et l'on sait que dans le Nord Kivu, le chef d'une milice accusé d'avoir tué ces trois dernières années 19 éco-gardes du parc national des Virunga a été arrêté le 8 juin après une longue filature. Il s'agit de Jackson Mukambuto et il a donc été arrêté en périphérie de Butembo. Donc ça, c'est dans le Nord Kivu. On a en ligne Jonas Sipadi, qui est en République démocratique du Congo. Comment allez-vous, Jonas ?
Oui, bonjour, je vais bien, madame.
Alors, Jonas, il y a eu un petit changement de sujet en dernière minute. Je vous ai inclus donc dans la discussion en tant que fidèle auditeur. Donc, il s'agit effectivement de la question sécuritaire dans l'Est de la RDC, votre pays. Savoir si, selon vous, l'armée peut régler ce problème à elle seule. On vous écoute.
Pour moi, je voulais vraiment dire à notre président d'interpeller d'autres pays pour qu'ils viennent au secours, parce que je vois, avec nous, nous-mêmes, avec nos soldats, nous-mêmes, on peut faire quelque chose, mais il faut avoir l'aide extérieure, parce qu'on dit que l'union fait la force. Il peut même appeler, dire aux autres présidents de lui secourir avec des militaires pour mettre fin à ces choses-là. Du jour au jour, quand nous attendons qu'on tue ou enfin vraiment, ça nous fait mal au cœur. Dans notre pays, le pays qui est le pays de la démocratie, on tue les gens du jour au jour, vraiment, ça nous fait du mal. Il faut qu'on trouve de l'aide à partir de d'autres pays, même l'Amérique peut nous tenir aussi avec les casques de la MONUSCO pour mettre fin à des choses-là. Vraiment, ça nous fait mal au cœur.
Un grand merci, Jonas, pour votre participation. On vous dit à très bientôt. On va citer Excellence Trom Kaba sur notre Facebook qui pense que oui, bien sûr, dit-il, que l'état de siège et l'armée sont efficaces. Il y a également la réflexion de Marie-Paul Awa qu'on essaie de joindre, mais nous ne sommes pas parvenus à le joindre jusqu'ici. Donc Marie-Paul dit l'état de siège est loin de résoudre le problème de l'activisme rebelle. Le bilan sur le terrain est chaotique, pense-t-il, et pas rassurant quant à l'éradication effective des groupes armés, pas plus que les groupes djihadistes en Afrique. Il poursuit en disant « Aussi longtemps que la RDC ne sécurise pas ses frontières internes et externes et que le secteur minier n'est toujours pas gouverné par cet État », il parle de l'absence de traçabilité notamment. Il dit en plus « L'armée reste infiltrée par les étrangers ». Alors il met entre parenthèses « Manque d'une armée républicaine et professionnel », et il termine en disant un mois après sa mise en œuvre, le bilan de l'état de siège en RDC est des attentes escomptées. Donc Marie-Paul qui est à Kisangani en République démocratique du Congo. On a également la réflexion de Salomon Mungindu qu'on a essayé de joindre. Alors il dit que jusque-là il y a des tueries dans l'est du pays sous l'état de siège. Et Mbouza Moukenye dit peut-être dans d'autres pays comme le Rwanda, cela peut se faire par l'armée nationale, tandis qu'en RDC, l'armée est infiltrée, dit-il. Imaginez un militaire qui était formé au Kivu, il finit presque sa carrière sans faire aucune permutation, et cela les rend comme des commerçants et non comme des soldats qui ont juré de mourir pour leur pays, dit-il. Les belles maisons et voitures appartiennent aux militaires. C'est la réflexion de Mbouza Moukenye. Je crois qu'on a un auditeur en ligne. On a Jim Rangarté à Doum.
Les femmes ont une capacité intellectuelle, une capacité physique de travailler. Donc, quand le président est conscient de ce fait et qu'il nomme des femmes à des postes de responsabilité, pour moi, ce n'est juste qu'une justice. Et le temps de marginalisation est passé. Donc, on ne doit pas voir les femmes comme des êtres qui ne peuvent pas.
Mais je crois qu'on a un petit.
Toujours au second rang, je crois que c'est une injustice.
Je ne sais pas de quoi il était question. Je suis désolée. On a eu, je ne sais pas qui est-ce que nous avons eu là. Désolée pour ce petit problème. Je vais citer Salomon Mungindu, qui a dit, je pense que cela ne suffira pas pour éradiquer les djihadistes. Il faut une attaque intégrale, dit-il, sans limite pour protéger la population. Donc, Salomon, qui pense qu'il faudrait donc une attaque de grande envergure dans cette région. Et on a un dernier auditeur en ligne. Christian Politasi, très rapidement, comment allez-vous?
Oui, ça va. Comment allez-vous?
Ça va très bien, on vous écoute.
Oui, en fait, moi, je pense que par rapport à cette situation, déjà, l'engagement de l'État congolais est une bonne chose. Il faudrait maintenant beaucoup plus, un engagement beaucoup plus premier dans les chefs de la population. Parce qu'au-delà de ce que le gouvernement fait, il faut encore les moyens. Donc il faut mobiliser beaucoup plus de moyens. Et non seulement il faut mobiliser les moyens, il faut encore l'accompagnement de la population. Parce qu'il faudrait dénoncer même ceux qui sont dans ce genre de choses. Parce que que ce soit les ADR, que ce soit les djihadistes, tous vivent également avec la population. Donc, s'il y a une coopération entre la population et le gouvernement, facilement, on pourra facilement dénoncer ceux qui sont dans ce genre de groupe. Et ceux-là qui seront dénoncés et pourront facilement ne soit abandonner ces sales besoins. Donc, voilà un peu ce que moi je te dis. Au-delà de toutes les autres mesures, il faut également un accompagnement. Il faut associer la population dans ce genre de démarche pour vraiment aboutir à un résultat beaucoup plus concret.
Un grand merci, Christian, pour votre soutien. Je vais citer Sylvain pour terminer. Il pense que oui, les armées nationales peuvent à elles seules repousser et éradiquer les groupes djihadistes en Afrique. On a essayé également donc de le joindre, Sylvain, et on a également la réflexion de Patrice Koutouma-Landou qui pense qu'avoir un service de renseignement adéquat reste éventuellement un atout irréprochable. Merci beaucoup à Lionel Gaïma. Un grand merci à vous toutes, à vous tous. C'était Nathalie Barge avec vous pour À votre avis. À très bientôt.